Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo, le magazine de notre web radio Micro Rebelle. Nous sommes donc en direct de nos studios de Lens, chaque vendredi de 18h à 19h, et vous pouvez nous écouter sur notre site micro-rebelle.fr ou au travers de l'appli de la Franf. Je rappelle également que ce Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par nos amis de Radio PFM 99.9 en ondes hertziennes ou en DAB+. Chaque vendredi, rediffusion à 20h, le samedi à 7h30 et le dimanche à 14h. Alors en studio, nous commençons à revenir petit à petit et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Aurélie. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Et au programme de ce Micro Rebelle Hebdo, comme chaque semaine, notre agenda social et culturel, les actualités au travers de la revue de presse, des reportages et de la musique. Sans tarder, je vous propose tout de suite notre agenda social et culturel.
Dans l'agenda cette semaine, tout d'abord, le retour du lag. Donc des semaines et des semaines de confinement interminable. Et enfin, le lag réouvre ses portes pour toutes et tous. Pour les collectifs militants qui souhaitent s'en emparer pour organiser leur activité, leurs initiatives, n'hésitez pas à faire un tour au lag 23 avenue Jean Jaurès, on vous y attend. Le mardi 16 juin aura lieu la journée internationale à Mardi de la colère. Et à cette occasion, une manif « Déconfiner tous ensemble, changeons la société » aura lieu à Lille, place de la République, dès 14h30. Donc cette manif est pour tous, pour les soignants, les ouvriers, les employés, le public ou le privé, les retraités comme les privés d'emploi, les étudiants, les cadres. Tous ensemble, faisons changer les choses. Et enfin, toujours le mardi 16 juin, une réunion ouverte aura lieu à l'initiative du collectif local du bassin minier concernant Ensemble pour le climat. Elle se déroulera des 18h30 à 20h30 au lag, toujours au 23 avenue Jean Jaurès. N'hésitez pas à y faire un tour. Et c'est donc la fin de cet agenda.
Très bien, merci Aurélie. On va tout de suite enchaîner avec l'actualité et la revue de presse. Alors on a une semaine très riche en actualité, comme la semaine dernière. On va parler des violences policières, du racisme dans la police, la question du racisme dans la police, et puis les manifestations en France et dans le monde. L'assassinat de George Floyd à Minneapolis par un policier blanc a entraîné une large révolte contre le racisme aux États-Unis dans la police. Cette révolte déborde au niveau international, ne serait-ce que du fait que de nombreuses personnes vivent le racisme et la violence policière à travers le monde. Cette réalité, la France y participe pleinement. Quelques titres cette semaine dans la presse locale. Tout d'abord, mercredi cette semaine, dans La Voix du Nord, « Violence policière et racisme », encore 1500 manifestants à Lille hier. C'était le troisième rassemblement en 5 jours. Le même article poursuit « Snook a 20 ans ». Mes grands frères ont subi des violences policières, raconte la jeune fille. C'est pour mon petit frère que je suis là. C'est un métis noir et arabe. C'est pour lui que je m'inquiète, que je me bats. Sur une pancarte, elle réclame justice pour Liu Xiaoyao, ressortissant chinois tué à Paris en mars 2017. Sur une autre, elle a écrit « Ils ont tué Malik Houssekine, tué le 6 décembre 1986 à Paris par des policiers en marge d'une manifestation contre la loi Devaquet sur la réforme des universités. Et puis cette interminable succession de prénoms, une liste non exhaustive des morts des violences policières. Puisée, dit-elle, dans les tréfonds d'Internet. Elle démarre en 1971 et elle ne concerne que la France. Avec Snook, ils sont au moins 1500 à avoir convergé vers la place de la République de Lille pour ce troisième rassemblement de la semaine, Black Lives Matter. Les vies des Noirs comptent. Dans la capitale des Flandres, à Lille donc. Beaucoup de jeunes, des familles aussi se sont invitées parmi les manifestants. Fin de citation. Le lendemain jeudi, même tonalité, avec ce titre quasiment identique, un millier de personnes contre les violences policières à Lille hier soir. Et dans l'article, je cite, « Tout commence à 18h, place de la République, où un millier de personnes, essentiellement entre 15 et 25 ans, écoutent d'abord, rapidement, la maman de Mathis, mort après avoir été percutée par un TER à Fives, un drame qu'elle impute aux forces de l'ordre. L'enquête est toujours en cours. « Mon fils a été forcé de traverser cette voie ferrée », rappelle-t-elle. « On nous a refusé deux fois une reconstitution. Je dis stop à l'impunité de la police, stop aux violences et aux délits de faciès. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous, les jeunes, vous avez le droit de vous défendre. Pas de justice, pas de paix », répondent les premières rangées avant de partir en cortège vers le boulevard Lebas. Un peu plus loin, la Voix du Nord propose un encart. Qui sont les manifestants ? Je cite. « Pour sa 4e édition, la manifestation lilloise contre le racisme et les violences policières a réuni un millier de personnes hier. Parmi elles, une grande majorité de jeunes, pas forcément habitués à brandir des pancartes. À 33 ans, Axel, expert en informatique venu de Villeneuve-d'Ascq, vit depuis début juin ses premières manifestations. « Mes parents sont originaires du Congo, et c'est clair qu'en France, on ne part pas tous de la même ligne, que ce soit pour trouver un travail ou un logement. » Sans compter toutes ces petites blagues, toutes ces remarques. Le racisme, ça a commencé pour moi en classe. Je faisais partie des deux seuls noirs et on nous regardait bizarrement. Je suis ici pour montrer qu'on peut changer les choses ensemble. Les autres racontent un engagement récent qui a commencé avec la réforme du bac, les retraites ou les manifestations pour le climat. À 22 ans, Binta, étudiante en langue étrangère appliquée, arrive de Roubaix. Les violences policières sont devenues insupportables et il y a un ras-le-bol général. On n'a jamais eu un mouvement de cette ampleur contre le racisme. Je suis fier que tous ces jeunes se soient déplacés. Notre génération est partie pour enfin changer les choses. Et cette révolte des manifestantes et manifestants à Lille, il en a été de même partout dans le monde. La presse évoque ainsi « La rue se mobilise contre le racisme aux quatre coins de la planète ». En finir avec le racisme et les violences policières, des dizaines de milliers de personnes, poursuit l'article, ont bravé la pandémie hier à travers le monde pour exprimer une indignation sans précédent déclenchée par la mort du noir américain George Floyd. Et les différents articles donnent un aperçu de l'ampleur des manifestations avec des photos qui montrent des avenues noires de monde avec de nombreux jeunes. Par exemple, de Berlin à Paris, des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier pour protester contre les violences policières et le racisme. Ou encore à Sydney, au moins 20 000 personnes ont participé à la manifestation, initialement interdite, puis autorisée par la police. Encore à Washington, sous un soleil de plomb, la foule a avancé en direction des rues menant à la Maison-Blanche et devant les Capitoles. Et enfin, entre autres exemples, à Tunis, les manifestants étaient nombreux également. Ils ont affiché leur solidarité avec le peuple américain. Alors en France, cette révolte contre le racisme et les violences policières, elle s'articule notamment autour du comité Adama. En titre, ce mercredi dans La Voix du Nord, le comité pour Adama, aiguillon de la mobilisation. L'article poursuit l'environnement de la famille d'Adama Traoré, mort en 2016, peu après son interpellation par des gendarmes, mène un ardent combat pour connaître la vérité. C'est sur ce combat que s'est greffée la contestation venue des États-Unis. Des extraits de l'article. Personne ne peut dire raisonnablement qu'il s'attendait à une telle ampleur de la manifestation du 2 juin. 20 000, peut-être 30 000 personnes. Allez savoir avec ces différends entre la police et les organisateurs. Devant le tribunal judiciaire de Paris, c'était un souffle étonnant, venu d'outre-Atlantique, mais pas seulement. Le journal continue. L'émotion née de la mort de George Floyd à Minneapolis a rebondi en France sur le combat de la famille et du comité Justice pour Adama. Inlassable et ambitieux combat que mène le comité qui porte le nom de ce gamin de 24 ans, mort en 2016 dans les locaux de la gendarmerie de Persan, dans le Val-d'Oise, peu après son interpellation. Bientôt 4 ans d'une colère jamais fatiguée, d'une volonté farouche de savoir ce qui s'est vraiment passé ce 19 juillet, alors que l'enquête a souvent louvoyé entre expertise, contre-expertise et ce sentiment peu rassurant que tout n'est pas dit. Derrière Assa, la sœur aînée d'Adama, qui mène le mouvement de son charisme rageur, un comité solide s'est attiré la solidarité de diverses organisations, de la gauche radicale surtout, et de plusieurs personnalités. Son discours, qui dénonce les violences policières, s'en prend à la justice et mêle réalité sociale, antiracisme et respect de la planète à infuser dans les quartiers des banlieues. Fin de citation. Alors bien sûr, dans ce contexte, les tentatives de récupération vont bon train. Ainsi, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a tenté une rencontre avec Assa Traoré. Rencontre refusée et expliquée par Assa Traoré. « Mon frère est mort par des actes, pas par des mots. » Bref, hors de question de se faire récupérer par l'Élysée. Et même chose à propos du rassemblement organisé par SOS Racisme. La vraie voix des quartiers populaires est la nôtre, pas celle de ce soir, a déclaré Assa Traoré, qui poursuit « Les mouvements comme le MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues, ont été invisibilisés par SOS Racisme. Ils, SOS Racisme, ne sont pas nos porte-parole, nous sommes nos propres porte-parole. » Et puis, depuis deux jours, la grande question qui préoccupe les médias, c'est « La police est-elle violente ? La police est-elle raciste ?» Le débat tourne notamment sur le fait que le comportement de quelques policiers isolés, minoritaires, ne doit pas rejaillir sur l'ensemble de l'institution policière. En tout cas, il semble que ce qu'on a appelé le « police bashing » fait réagir au moins au sein de la police. Quelques titres dans la presse du jour. Les policiers en ont marre d'être pris pour des crapules. Crapules avec des guillemets. Hier, poursuit l'article, à l'appel des syndicats, les policiers du commissariat d'Arras, comme partout en France, ont jeté symboliquement les menottes à l'occasion d'un rassemblement, un mouvement d'humeur sur fond de défiance à l'égard des forces de l'ordre. Les fonctionnaires ont maintenant la crainte d'interpeller des individus violents, peur d'être mis en cause, les collègues sont désabusés. Les policiers estiment que leur ministre de l'Intérieur les a lâchés et confient être désabusés, voire écœurés, parce qu'ils entendent depuis plusieurs jours. Tout cela sur fond d'affaires Traoré et de révélations de racisme au sein de la police. Ou encore un autre article, « Déguisés en licorne, des policiers dénoncent les propos de leur ministre ». Les policiers, poursuit l'article en légende sous une photo, n'ont pas hésité à se déguiser en licorne pour dénoncer les propos de Christophe Castaner. Fin de citation. Ce qui est reproché à Christophe Castaner par ses policiers, ce sont ses annonces de fermeté et de sanctions, voire de suspension, face au comportement raciste, ainsi que l'abandon de la prise par le cou, méthode dite de l'étranglement. Alors, que peut-on penser de tout ça ? On peut commencer par rappeler l'existence d'une culture de l'impunité policière qui s'appuie sur la partialité de la justice avec de nombreux classements sans suite, des non-lieux, des relax, ainsi qu'une indifférence médiatique qui reprend complaisamment les versions policières. Ensuite, la violence policière, on ne s'y trompe pas, elle est bien sûr le fait de personnes, d'individus, mais plus largement, c'est toute l'institution policière qui est imprégnée de racisme et de haine des pauvres. Parce que c'est sa fonction, défendre et protéger un système qui repose sur l'explosion du nombre de pauvres au profit d'une minorité de riches. Aux États-Unis comme en France, les populations immigrées, noires, roms, subissent et vont subir encore davantage la vague de chômage en cours. Ces communautés sont particulièrement frappées par les maladies. Elles pratiquent des métiers difficiles, elles subissent la misère de plein fouet. Et la police a un rôle social, elle est au service d'un système inégalitaire, injuste. Et être au service d'un système injuste, ça donne une police gangrenée par le mépris social, par la haine des pauvres, la haine des banlieues, le racisme. On peut y compris ajouter que le racisme policier est un racisme d'État hérité d'une histoire coloniale. La violence policière touche l'ensemble des classes populaires, et donc particulièrement les Roms, les Arabes, les Noirs, au sein de ces classes populaires. En ce sens, Christophe Castaner et Emmanuel Macron s'efforcent de calmer la polémique et d'éminer la colère. Mais cette colère, elle pourrait bien aller au-delà de la dénonciation des pratiques policières. Alors quelques mots maintenant sur l'actualité sociale, avec ces titres relevés dans la presse locale cette semaine. Des titres en vrac. À Pont-à-Marc, l'usine Agfa Gevaert, 175 salariés, devrait fermer avant la fin de l'année. À Libercourt, reprise timide et inquiétude chez Dupont Restauration. À Roubaix, manifestation des salariés de Conduante. À Maubeuge, grève chez Neuhauser. À Ordin, des questions après le recours à des salariés polonais chez PSA. À Roubaix, Damar et Afibel dans le rouge, 195 postes en moins dans les enseignes pour seniors. À Douvrin, selon les syndicats CGT, PSA Douvrin abuse du chômage partiel. Bref, il ne fait pas très bon dans le monde d'après pour les travailleuses, travailleurs, précaires, etc. C'est tout le sens des appels à la mobilisation, à la grève, à la manifestation, mardi prochain 16 juin, dont nous a entretenu Aurélie tout à l'heure dans son agenda. Je rappelle pour mémoire, rendez-vous 14h30, place de la République à Lille. Bien voilà, c'en est terminé, tout au moins pour ce qui me concerne. Et je donne la parole, toujours dans le cadre de nos rubriques d'actualité, à Aurélie.
Merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un article paru dans Politis cette semaine à propos des municipales du monde d'après. En effet, le moins que l'on puisse dire est que le Covid-19 a été plus qu'un challenge pour les candidats du second tour des municipales. Comment garder la fidélité des électeurs? Plus encore, comment conquérir leur cœur? Parce que oui, rappelons-le, les villes n'ayant toujours pas de maire officiel ont gardé leur maire sortant tout le long de l'épidémie. Or, quelle meilleure publicité pour ces maires sortants qui, pour la plupart, candidatent à nouveau. Pour un maire qui apporte masque, gel hydroalcoolique, lors de l'épidémie, il n'y a que du bénéfice à en tirer. Alors que pour les autres candidats, en revanche, ce n'est pas une mince affaire. Mais, miracle, les Verts comme la France Insoumise ont trouvé un moyen grandiose de faire parler d'eux. Plus encore, de conquérir des voix, le numérique. N'est-ce pas un comble pour des partis qui, à longueur de temps, ne tarissent pas d'éloges envers leur engagement écologique? Je ne savais pas que faire des lives Facebook, être omniprésent sur le numérique, était écologique. Alors certes, je ne suis sans doute pas un modèle dans le domaine, mais cela vient sans doute de ma génération hyper connectée. Mais je le reconnais, ce qui n'est pas le cas de tous ces partis qui affichent le jour des élections des engagements et des valeurs qui n'en sont pas. Comment peut-on se dire écologiste et à côté de cela, user de pratiques qui sont contraires à ce même engagement? Au-delà de l'usage du numérique, j'ai la vague impression qu'en politique, l'écologie, c'est du vent. Un grand trou noir que l'on déguise en greenwashing. Oui, parce que, chers auditeurs, c'est connu. Si on se soucie de la planète, nous ne sommes rien de plus que des hippies qui fument des joints et boivent dans des verres éco-cup. Bien sûr, voyons, il n'existe pas déjà des associations engagées dans cette cause. Et puis bien sûr, les gamins qui ont défilé dans les rues lors du mouvement Ensemble pour le climat vont se contenter d'un petit greenwashing, comme lorsque McDo annonce la suppression de ses pailles en plastique au profit de gobelets en carton recyclable. Comme si c'était suffisant. En politique, c'est pareil. Et personnellement, j'appelle ça la politique du sourd qui entend ce qu'il veut. L'écologie en politique, c'est uniquement en période d'élection. Ça dure quelques mois, durant lesquels on ne se gêne pas, pourtant pour distribuer des tracts par milliers, parce que c'est pas grave, les arbres, il y en a plein. On utilise l'écologie comme un attrape-nigaud. On dit aux Français qu'ils doivent changer de voiture, parce que le diesel pollue beaucoup, alors que quelques années auparavant, le gouvernement prônait le diesel, justement. Par contre, McDonald's peut garder ses suremballages, peut continuer à se servir des centrales nucléaires, et personne ne touchera au yacht des privilégiés, parce que ce n'est pas si polluant que ça, au final, non ? Petit conseil pour les politiciens qui partent à la conquête des réseaux sociaux. Si vous n'arrivez pas à gagner une élection en tuant des milliers d'arbres, vous n'arriverez pas à gagner en envahissant l'espace numérique. Changez de valeur, soyez dans le vrai. Et s'il vous plaît, Arrêtez de prôner l'écologie si vous ne savez pas ce que c'est. Il y a des personnes ici et là pour qui cela compte vraiment. Ce sont d'ailleurs les personnes que l'on voit le moins, parce qu'ils ne le font pas pour être élus ou pour avoir une quelconque reconnaissance sociale. Ils le font car ce sont dans leurs valeurs. Et les valeurs ne se monétisent pas.
Web Radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Musique libre sur Micro Rebelle comme d'habitude. C'était le groupe Free Software Song. C'est du heavy rock. Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, le magazine de notre web radio micro-rebelle.fr, également disponible sur l'appli de la France et en rediffusion chez nos amis de Radio PFM dans l'Arrajois. On continue ce micro-rebelle hebdo par un reportage. On a beaucoup évoqué tout à l'heure, à l'occasion de notre rubrique actualité et revue de presse, les violences policières. Eh bien, on va continuer avec les violences policières et les réfractaires du 80. Le 80, c'est la Somme, un département tout à fait voisin du nôtre dans les Hauts-de-France. Et c'est un reportage signé Luc.
La mort de George Floyd à Minneapolis a créé un mouvement planétaire de contestation des violences policières et des violences racistes commises par les forces de l'ordre. En France, c'est la mort d'Adama Traoré et le combat de sa famille pour obtenir justice qui est sous les projecteurs. Plus largement, les violences policières renvoient au rapport de classe et à la criminalisation de populations érigées en menace et contre lesquelles l'ordre sécuritaire est censé nous protéger. Pour entrer dans les réalités de ces violences et pour évoquer les combats qui se mènent aujourd'hui contre la brutalité de la répression policière et judiciaire, nous avons contacté Mélanie du collectif de Gilets jaunes amiénois, les Réfractaires du 80, collectif qui organise à partir du 14 juin une semaine de mobilisation.
Je m'appelle Mélanie, je suis travailleuse sociale sur Amiens. J'ai 39 ans, je suis maman de deux petites adolescentes de 12 et 16 ans et je suis gilet jaune depuis le 1er décembre 2018.
Et tu fais partie d'un collectif de gilets jaunes qui s'appelle les Réfractaires du 80. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce collectif ?
Alors, le collectif dont je fais partie, les Réfractaires du 80, est un collectif qui s'est monté février 2019 parce que sur Amiens, alors moi je militais essentiellement sur Paris et sur Amiens, la mobilisation a commencé à disparaître. Il y avait presque plus de manifs le week-end, les gens préférant aller soit sur l'île ou dans les grandes villes avoisinantes. Et il y avait plusieurs groupes de gilets jaunes dans notre ville. Les gilets jaunes d'Amiens ne se retrouvaient pas dans ces deux groupes-là, qui étaient les gilets jaunes pacifistes et les gilets jaunes de Monsieur Grenier. Et donc, on nous a proposé, lors d'une manifestation, de reprendre un peu une page Facebook qui avait pas mal d'abonnés pour pourquoi pas reprendre des mobilisations sur Amiens. Donc, on a commencé comme ça sur Amiens avec le groupe des Réfractaires à partir de janvier, février, où on mettait en place des manifs, donc avec un point de rendez-vous. Et puis après, on était assez libre, hein, car on n'a jamais réellement déclaré les manifs sur Amiens. On savait de où on partait, mais on ne savait pas où on allait arriver. Et on a fonctionné comme ça pendant quelques mois. Et on n'avait pas de nom. Mais le courrier Picard nous mélangeait aux deux autres groupes. Donc, on a lancé sur Facebook un sondage, c'est le nom Les Réfractaires du 80 qui a eu le plus grand nombre de votes et c'est pour ça qu'on a choisi d'adopter ce nom.
Alors aujourd'hui, quelles sont les activités du collectif, du groupe, en termes de mobilisation, de réunion, d'action ?
On n'a jamais arrêté, même pendant la crise sanitaire, on faisait des visios, on faisait nos réunions en visio. Pour nous, c'est super important de se voir toutes les semaines. D'une part parce que avec les textes de loi qui évoluent, on n'est pas tous au courant et en étant plusieurs à s'informer, on peut croiser les informations. Et donc, on se voit tous les mardis pendant 2 heures où on construit, on se projette on essaye de faire un planning par mois. Donc là, on a tout le mois de juin qui est calé. Donc, par exemple, pour le mois de juin, la semaine dernière, il y avait un covoiturage pour Paris, plus une manifestation qu'il y avait sur Amiens qui a été déclarée en dernière minute, mais pas par les Gilets jaunes, par un autre groupe pour dénoncer les violences policières. Samedi, on fait une manifestation qui a pour thème de dénoncer la gestion de la crise sanitaire. Donc, le chômage partiel, le fait qu'il n'y ait pas eu de masque. Et donc, on va reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette crise sanitaire et les mettre en valeur sur des pancartes, sur des banderoles. Et on défilera avec samedi. La semaine qui suit, on a plusieurs camarades gilets jaunes qui passent en procès. Donc la semaine du 14 au 18, on est sur des mobilisations devant le tribunal, le 16 et 17. Le 15, on diffuse une émission télé qu'on va enregistrer, non le 14, une émission télé qu'on va enregistrer sur un plateau à Montreuil ce dimanche, qui sera diffusée sur notre page Les Réfractaires du 80 sur Facebook dès lundi. Mardi 16, on est off. Mercredi 17, il y a procès, du coup, rassemblement à midi devant le tribunal. Jeudi 17, il y a de nouveau un procès, donc rassemblement devant le tribunal à midi. Le samedi, nous avons répondu à l'appel de la marche pour commémorer la mémoire de Lamine Dieng et demander justice. Donc, nous organisons un covoiturage. Et le samedi 27, c'est nos camarades gilets jaunes de Maubeuge qui nous ont invités à les rejoindre. Donc, on va sur Maubeuge le samedi 27.
Sur la thématique des violences policières, comment on peut ou comment vous faites le lien entre les violences qu'ont subi les gilets jaunes et les violences racistes qui, là, aujourd'hui, sont dans l'actualité? Quel est le dénominateur commun, en fait, entre ces violences?
Le dénominateur commun, c'est la police. Alors moi, j'ai la malchance de faire partie du collectif des mutilés pour l'exemple, car j'ai été blessée lors d'une manifestation le 20 avril sur Paris, le 20 avril 2019 sur Paris. Je suis de dos, je marche, j'ai le bras levé, et le commandant divisionnaire, un des plus hauts gradés des CRS, vient et me matraque la nuque, me laissant pour morte au sol, parce que je perds connaissance tout de suite. Donc la violence policière est devenue systémique, c'est devenu quelque chose de normal. En fait, on ne dialogue plus avec la police. Moi, je suis habitante de quartier populaire, j'habite à Amiens-Nord depuis que je suis née, j'y ai grandi, j'y élève mes enfants et je vais y mourir dans ce quartier parce que j'aime ce quartier. Par contre, j'ai toujours su qu'il y avait des violences policières contre nos frères, contre nos oncles, contre nos pères. Nous, les filles, on était assez épargnées. Parce que le policier est misogyne et le policier pense qu'une fille ne peut pas faire partie d'émeutes, par exemple. Aujourd'hui, avec les gilets jaunes, on a passé un cap. C'est-à-dire que autant avant, on réservait cette violence aux jeunes maghrébins ou aux jeunes noirs africains, ce qui n'est pas du tout tolérable et ce qu'on condamne depuis le début, mais aujourd'hui, on s'en fiche, que ce soit une personne âgée, on l'a vu avec Madame Le Guay, que ce soit un handicapé. On a tous en tête des vidéos où on voit la police charger une personne en fauteuil roulant, que ce soit une femme, que ce soit même un enfant. On a vu ça avec Gabriel, c'était pas sur une manif gilet jaune, mais l'enfant, 14 ans, qui se voit fracturer la pommette, qui risque de perdre son œil, qui a des dents cassées, et la police explique qu'ils lui sont tombés dessus, et qu'en fait c'est un coup de genou maladroit qui a cassé des dents. Donc oui, on fait la relation. En fait, le mouvement des Gilets jaunes a ouvert les yeux à beaucoup de Français qui ne savaient pas ce qui se passait dans nos cités, qui l'ont senti dans leur chair, et aujourd'hui, ils le savent. Et c'est pour ça que nos luttes se croisent, et que c'est pour ça que c'est aussi important pour nous, les Gilets jaunes, de rejoindre toutes les mobilisations contre les violences policières, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont découvert les violences policières durant ce mouvement.
Le collectif des mutilés pour l'exemple, est-ce que tu peux nous en parler? D'abord, le nom, le choix du nom, et puis aussi quelle est la raison d'être du collectif, quel est son objectif?
Alors moi, je n'intègre pas le collectif des mutilés pour l'exemple dès le départ, puisque je suis blessée en avril. J'intègre le collectif en mai, après la première marche des mutilés. Donc, mutilés pour l'exemple, l'origine du nom, c'est... On dit qu'une personne mutilée, c'est 1000 personnes qui rentrent chez eux, de peur d'avoir cette mutilation. Et en fait, on regroupe, c'est un collectif qui regroupe tous les mutilés blessés qui ont besoin d'un accompagnement psychologique. On a notre camarade Vanessa Gilet Jaune qui était blessée, qui a perdu son œil, son cerveau est en train de se nécroser. Et en fait, c'est elle qui est le moteur de ce collectif. Donc, le collectif a pour but d'aider psychologiquement les mutilés parce qu'on n'a pas d'aide psychologique. Moi, quand j'ai voulu aller voir un psy pour faire de la désensibilisation, et ben, c'est tout de suite 80 euros la séance. Si on est gilet jaune, en grande partie, c'était pour demander à avoir un meilleur pouvoir d'achat. Donc, les 80 euros par semaine, ben, je les ai pas. Donc ce collectif nous sert aussi à pouvoir discuter entre nous. Et puis, ben, on se comprend. C'est un peu bête ce que je vais dire, et peut-être que les personnes qui vont m'écouter ne vont pas me comprendre, mais personne ne nous comprend mieux qu'un autre mutilé ou qu'un autre blessé. La peur qu'on a en nous, nos traumatismes, les cauchemars, qui viennent, qui reviennent, le fait qu'on n'arrive plus à dormir, qu'on n'arrive plus à manger, que pour nous la vie n'a plus de goût, qu'on n'a plus de patience, ben c'est difficile pour nos familles de nous écouter, de nous entendre dire tout ça. Donc quand on est entre nous, et ben on se lâche et on se dit ben merde, j'en ai marre. J'ai une camarade qui n'arrive plus à avoir de sensations, de sentiments quand elle prend ses enfants dans ses bras. J'ai un camarade qui a perdu l'odorat et qui jamais ne pourra sentir l'odeur de son enfant. c'est des choses comme ça que les gens qui n'ont pas subi ce traumatisme ne peuvent pas comprendre. Et on comprend que ces personnes ne puissent pas le comprendre. Mais ce collectif, il est là pour nous aider à parler et à tout lâcher. Et donc nous, on demande en fait l'arrêt du LBD, l'arrêt des prises d'étranglement, on demande l'arrêt des grenades Glyph-4, on demande, voilà, ce collectif est là et pour écouter et pour orienter aussi, parce que maintenant on a des psychologues, on a des médecins, et donc on peut orienter nos camarades qui viennent d'être blessés, mais aussi on demande à ce que tout ça soit revu en fait, et qu'on réforme les méthodes de la police.
Comme tu l'as dit, ce mois-ci, vous appelez aussi à des manifestations, des mobilisations contre la répression judiciaire, parce qu'il y a la répression policière, la brutalité concrète dans les manifestations, mais il y a aussi une répression judiciaire. Et vous avez justement des cas dans votre collectif, ou en tout cas à Amiens, chez les Gilets jaunes. C'est pour ça que vous appelez à vous mobiliser ce mois-ci. Est-ce que tu peux parler de ces cas-là ?
Alors, on a une camarade qui s'est fait interpeller lors d'une manifestation pour dénoncer la loi retraite, les réformes de la retraite, pardon, dissimulation de visage. Donc, il y a les gaz lacrymogènes qui sont lancés par la police. Elle a monté son cache-nez, c'est elle est cycliste. Et du coup, elle a toujours un cache-cou, et c'était l'hiver en plus. Donc, elle a monté son cache-cou sur son nez. Et la police est venue l'interpeller le soir parce qu'il y avait un meeting de notre mairesse sortante qui est La République En Marche. Et donc, on avait décidé d'aller chanter des chansons devant le meeting. Et la brigade anticriminalité, la BAC, avait eu l'ordre de l'interpeller elle spécifiquement. Et c'est la commissaire qui a demandé son interpellation. Ça, c'est pour ma camarade Amandine. Pour mon camarade Jules, lui, c'est refus d'obtempérer. Il y a eu une interpellation devant lui et il s'est interposé pour pas que le cégétiste soit interpellé. Et au final, c'est notre camarade Jules qui s'est fait interpeller à sa voiture. Et le troisième, c'est Chris. Chris, lui, c'est suite à des publications Facebook. Pendant le confinement, on est venu le chercher chez lui, suite à des publications qu'il avait faites sur le gouvernement.
Vous participez là à la mobilisation contre les violences policières, hein, qui ont pris de l'ampleur avec la mort de George Floyd. Vous, ça fait un moment que vous êtes mobilisé sur cette thématique-là. Oui. Comment on peut expliquer l'ampleur que ça a pris aujourd'hui ?
Alors moi, ça me met un peu en colère, parce que ce qui se passe aux États-Unis, je ne comprends pas que ça rayonne autant. Parce que chez nous, on a eu quand même M. Chouvia qui est mort dans le même contexte. Il y avait une vidéo aussi. Et du coup, je comprends pas. Je suis dans la capacité de vous expliquer pourquoi quelque chose qui se passe aux États-Unis fait que ça rayonne sur la planète entière, parce qu'il n'y a pas qu'en France. Hein. On a tout de suite dégainé. Dès qu'on a vu la vidéo de M. Chouvia, c'était horrible, quoi. C'était pourquoi pour Adama Traoré, il n'y a pas eu. Il y a eu, quoi, tous les 20 juillet, on s'en va marcher avec le collectif. Mais pourquoi aujourd'hui ? Alors, est-ce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Est-ce que c'est... Parce que là, ça met en avant aussi le racisme d'État, le racisme de la police. Mais en France, la police est raciste. Quand on entend Bico, quand moi, je me fais insulter de Cassos, quand on vient m'interpeller, qu'on me dit « Ah ouais, c'est vous qui portez le drapeau algérien sur votre dos », quand un policier me dit « Ouais, c'est vous qui avez le drapeau algérien pendant les manifs, vous aimez bien vous faire remarquer. Hein. Oh, puis votre nom de famille, il n'est pas très français quand même. Hein. Ah oui, et puis en plus de ça, vous verrez. De toute façon, si vous êtes dans la rue, c'est votre faute parce qu'il fallait voter Le Pen. » Et cela n'engage que moi peut-être, mais la police est raciste. Peut-être que George Floyd, ça a mis ça en avant, le racisme. Et qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que le racisme ? Nous, les Gilets jaunes, on est dans la rue contre toutes les injustices sociales, fiscales, climatiques. Pour moi, la pire des injustices sociales, c'est bien le racisme. Il y a, par exemple, pour l'affaire Lamine Dieng, dans le rapport de la police, il est inscrit que le policier a pris peur parce que Lamine avait des gros mollets. Est-ce qu'on se rend compte de la bêtise de la chose ? C'est-à-dire que parce que l'homme noir est souvent athlétique, et mon mari est ivoirien, mesure 2 mètres, fait 120 kilos, et donc l'homme noir fait peur. Mais pour quelle raison ? pour quelle raison on se sent obligé de mettre au sol et d'écraser un homme? Pour quelle raison? Parce qu'il est noir et qu'il vous fait peur? Ben pose, c'est à eux de se remettre en question, c'est à eux de se poser les bonnes questions. Ce n'est pas normal qu'une couleur de peau fasse peur. Ce n'est pas normal que à cause d'une couleur de peau, on nous mette le poids de 3 hommes sur le dos de nos frères, de nos maris, de nos pères. Ce n'est pas normal. Donc à eux de revoir leur protocole, à eux de se réformer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de la justice. C'est que Monsieur Traoré soit traité comme Monsieur Dupuis, que Monsieur Dupuis soit traité comme Monsieur Dieng, que Monsieur Dieng soit traité comme Monsieur Alami.
Quand on voit l'impunité dont jouissent les forces de l'ordre, quand on voit là actuellement le déni total dont font preuve les dirigeants politiques ou les médias dominants, hein, il n'y a pas de violence policière. Quand on voit la proposition de loi d'Éric Ciotti et d'autres lois qui attentent à la liberté de manifester ou d'informer, bref, quand on dresse ce tableau-là, on s'interroge quand même sur la possibilité de changement. Sur la possibilité d'un changement radical. Donc, vous qui êtes aussi engagé dans une lutte de longue date, hein, parce que ça fera 2 ans cette année que le mouvement des Gilets jaunes aura commencé, sans réellement aussi, hein, qui est vraiment de victoire. Voilà, comment garder à l'esprit cet horizon de changement?
Alors, peut-être qu'on est très naïf ou peut-être qu'on y croit vraiment beaucoup, en fait. Moi, je suis pas pour la 5e République parce que tant qu'il y aura un 49-3 dans la 5e République, on n'arrivera jamais à rien. Donc moi, je suis pour une 6e République, je suis pour tout réformer. Et je pense qu'une majorité des Gilets jaunes sont aussi pour que tout soit réformé et qu'on puisse élire un peu comme en Suisse, mais mieux, qu'on puisse élire le peuple et que le peuple gouverne enfin. Donc oui, j'ai de l'espoir. Oui, j'y crois. Et c'est pour ça que je suis encore dans la rue. C'est pour ça que vous me verrez encore dans la rue jusqu'à ce que, eh ben, on ait un début de réponse à nos propositions. Donc on y croit, on est peut-être naïf, on est peut-être trop optimiste, on est peut-être, nos consciences se sont réveillées. Moi, je suis primo-militante. J'ai commencé ma formation politique et mon militantisme le 1er décembre 2018. Avant ça, j'étais une Française lambda qui n'avait pas de position, qui allait voter à chaque élection en votant pour ses couleurs, parce que j'avais quand même une couleur politique, mais je ne militais pas. Mais aujourd'hui, ils ont mis les gens dehors et ils n'arriveront plus jamais à les faire rentrer, tant qu'on n'aura pas un début de réponse.
Justement, à un niveau beaucoup plus concret, là, et notamment sur le thème des violences policières, quelles sont les revendications concrètes? Quels peuvent être des objectifs à court terme?
Alors, arrêter l'usage du LBD-40. Arrêter les prises d'étranglement. Nous sommes l'un des seuls pays européens à exercer ces prises d'asphyxie qui cassent les larynx, qui tuent nos frères, qui tuent nos pères. Arrêter ces prises qui sont mortels. Arrêtez le LBD. Ou peut-être mieux former, parce qu'il ne faut pas oublier que les LBD, ce n'est pas des flashballs. Les LBD 40, ils ont des viseurs holographiques dignes d'un viseur militaire. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'on a perdu autant d'œil, que de personnes aient perdu autant de yeux alors qu'ils ont des viseurs. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on enlève les LBD, peut-être qu'on revienne avec une police de proximité. Moi, quand j'étais petite, je voyais mon père jouer au foot avec la police. C'est peut-être con, mais dans la rue, on se saluait. Du coup, on se connaissait par nos prénoms. On se disait bonjour, on se respectait parce que il y avait des matchs de foot, il y avait des grands repas, les repas de l'Aïd, où la police venait, et venait avec des cajots de fruits, et on partageait avec eux. Et du coup, il y avait de l'échange. Après, on nous a enlevé la police de proximité. Monsieur Sarkozy est arrivé avec ses flashballs, et on est devenu sur une police où on va au contact. En Allemagne, on est sur tout à fait autre chose. On évite le contact. Là, on va au contact. Le commandant divisionnaire qui m'assène un coup de matraque, il est venu à moi. Je ne suis pas venue à lui. Moi, je partais. Et le premier truc qui m'est venu, parce que le 1er décembre 2018, quand je suis sur les Champs-Élysées, moi, j'avais invité ma gamine de 14 ans à venir avec moi. À l'époque, elle avait 14 ans. De venir avec moi parce que pour moi, j'allais à une manif. Vous savez, comme les grandes manifs qu'on a eues quand Le Pen était au deuxième tour. Moi, je pensais que j'allais là. Et quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis assise sur les Champs-Élysées, je pleurais, ils n'avaient qu'un seul mot dans la bouche, ils sont en train de nous massacrer. On nous massacre. On nous insulte. Moi, je passe pas une seule manif sans qu'un flic m'insulte, alors que je le regarde même pas. On se prend des fils de pute, des connards, des cassos. Alors ça, cassos, et c'est pas possible. Du coup, nous, on veut que ça soit réformé et que surtout, on arrête ça. Qu'on arrête ces putains LBD 40, ces putains de prises d'étranglement, d'asphyxie. Qu'on revienne à une police de proximité, une police qui n'est pas armée, mais une police qui est formée à la médiation pour parler. Hier, j'étais sur le marché de mon quartier, sur le marché d'Amiens Nord, et deux petits jeunes qui avaient un emplacement déclaré et qui vendent des parfums, il me semble, ils étaient assis sur une barrière. Et ben la police, ils se souvenaient pas pour leur demander de descendre de la barrière. Il y a des policiers, ils sont zélés. Ils font de la merde. C'est, tu descends de là. Mais pourquoi tu descends? Pourquoi? Et les jeunes, ils sont descendus. Ils auraient été moi, mais j'aurais dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, en fait? Mais pourquoi vous, pourquoi? Voilà ce qu'on demande. À ce qu'ils soient mieux formés, mieux informés, et surtout qu'ils soient formés à la médiation. Et qu'ils apprennent à parler aux gens. Qu'ils apprennent à parler, bordel. Parce qu'ils nous parlent pas, ils nous insultent, ils nous méprisent, ils nous font comme le président. Hein, faut traverser pour trouver du travail. Ben eux, ils sont dans la même dynamique. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir, quoi? Oui, on peut leur en vouloir. Parce que quand même, ils ont des cerveaux, ce sont des personnes à part entière. Ils sont pas obligés de rentrer dans un système.
Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner des informations pratiques? En début d'interview, tu as donné beaucoup de dates pour des appels à manifestation, à mobilisation, à action. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations?
Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le groupe qui s'appelle Les Réfractaires du 80. Vous avez une page ouverte et un groupe fermé. Vous nous demandez en ami, on accepte tout le monde. Et toutes les infos, on essaye de faire des agendas mois par mois où on reprend toutes les mobilisations auxquelles on participe ou qu'on met en place. Et vous pouvez nous contacter en privé. Quand il y a des manifs sur Amiens, on a des systèmes d'hébergement. Quand on va sur Paris ou quand on va sur Lille, peu importe, on fait des systèmes de covoiturage solidaire. Et voilà, donc n'hésitez pas, on a un Twitter qui s'appelle aussi Les Réfractaires du 80, on a un Instagram qui s'appelle aussi Les Réfractaires du 80, on est un peu monomaniaque. Et donc n'hésitez pas à nous contacter, même en message privé, pour des réunions, pour des informations, pour qu'on puisse partager sur nos pages, on le fait volontiers.
À notre micro, Mélanie du collectif de Gilets jaunes d'Amiens, Les Réfractaires du 80, au sujet des violences policières.
Oui, effectivement, un témoignage très fort, hein, Mélanie, du collectif Les Réfractaires du 80, sur la haine des pauvres, les violences policières, le racisme. Alors, peut-être un petit peu dans la continuité de ce reportage, hein, de Luc, je voudrais vous signaler que Micro Rebelle, à notre web radio, notre radio sur Internet, fait partie d'un collectif de radio qui s'appelle La Centrale. C'est un collectif qui est né cet hiver, hein, à l'occasion du mouvement contre la réforme des retraites, hein, à partir de décembre 2019. Et donc c'est un collectif qui regroupe différentes radios, des radios qui diffusent des reportages de lutte, hein, des reportages qui s'inscrivent dans le changement de société. Et donc c'est à ce titre-là que Micro Rebelle en fait partie. Hein. Je signale le site internet, hein, de La Centrale, c'est acentrale.org. Alors justement, ce dimanche 14 juin, de 15h à 18h, La Centrale va diffuser un programme de radio, hein, qui provient de différentes radios membres, et Micro Rebelle va rediffuser l'ensemble de ce programme. Donc c'est un programme assez long, hein, qui dure de 15h à 18h ce dimanche 14 juin. Donc vous pouvez le prendre en cours de route, vous pouvez le prendre quand vous voulez. Et à l'occasion de ce direct, en quelque sorte, un direct des radios de La Centrale, on va évoquer notamment une radio qui va évoquer la situation à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. On va retrouver les réfractaires du 80, qu'on vient juste d'entendre. Il y aura aussi La Parole Errante à plusieurs voix. Et puis d'autres reportages issus de radios, membres de ce collectif de radio La Centrale. Donc, si vous voulez avoir un aperçu, n'hésitez pas, connectez-vous sur micro-rebelle.fr ou au travers de l'appli de la Franf, ce dimanche 14 juin, à partir de 15h, hein, c'est de 15h à 18h. Alors ce micro-rebelle hebdo s'achemine tout doucement vers la fin. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter, n'hésitez pas, hein, nous contacter par téléphone, 03 74 71 24 87, je répète 03 74 71 24 87, ou par courriel contact@micro-rebelle.fr pour nous signaler des actualités, des initiatives, des manifestations, et puis aussi, n'hésitez pas non plus pour nous signaler des projets que vous pourriez avoir envie de nous communiquer. Alors on va terminer ce micro-rebelle hebdo, comme la semaine dernière, avec Aurélie qui va nous proposer le petit tip du jour. Le petit tip du jour, c'est le petit tuyau, le petit conseil, hein, pour prendre bien soin de soi. Et puis on va terminer tout ça avec de la musique libre. Je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, 18h, même station, micro-rebelle.fr. Bye bye, je laisse tout de suite la parole à Aurélie.
Alors, on se retrouve pour le petit tips de jour, pardon. Donc, l'été approche et en conséquence, aujourd'hui, je vous donne une astuce contre les coups de soleil. Donc, ça nous est déjà tous arrivé un jour ou l'autre, un use de crème solaire trop faible, oublier d'appliquer de la crème solaire régulièrement en été. Petit aparté, c'est très important de mettre de la crème solaire, n'oubliez pas. Et en résultat, on a une peau rougie qui démange et qui est douloureuse. Et donc, on peut forcément penser à se tourner vers des produits que j'appelle un peu des produits cracra avec plein d'ingrédients douteux dans la composition. Et du coup, moi, je vous propose une alternative plus économique et aussi meilleure pour la santé. Donc, c'est l'huile essentielle de lavande aspic qu'on peut trouver un peu partout en pharmacie et en parapharmacie. Et c'est une alliée de choix en cas de coup de soleil, même en cas de brûlure domestique si vous brûlez en faisant des pâtes. La lavande aspic, elle peut servir. Donc, elle est antalgique, anti-inflammatoire et anti-infectieuse, pardon. Donc elle apporte un soulagement presque immédiat. Donc après avoir rincé votre peau à l'eau froide pendant quelques minutes, étape importante, il faut appliquer quelques gouttes de lavande aspic avec un peu d'huile sur les zones concernées. Ça a renouvelé si nécessaire au maximum 8 fois dans la journée. Attention, je le rappelle, je ne l'avais peut-être pas dit la dernière fois, certaines huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur l'huile essentielle sur n'importe quelle huile essentielle avant d'en faire toute utilisation. Et pour rappel, une huile essentielle ne s'applique jamais pure. Il faut toujours qu'elle soit mélangée avec de l'huile parce que ça pourrait vous brûler.